RCF.
Je pense, donc j'agis. Une émission présentée par Melchior Gormand.
Bonjour à tous. Ceux qui cherchent des successeurs dans les associations vous le diront, pas facile de trouver des personnes pour prendre la relève. Surtout si l'engagement est sur le long terme et oblige à des responsabilités. Donner du temps, c'est vrai, pour faire avancer une cause, ça bouscule les vies de ceux qui s'y confrontent. Alors qui est prêt aujourd'hui à s'engager et à servir les autres? Y a-t-il de nouvelles formes de mobilisation? Vous l'avez compris, nous parlons d'engagement ce matin dans Je pense donc j'agis. Ce sera l'occasion, à partir de 10h, de lancer les trophées de l'engagement des jeunes. C'est un concours qui a pour objectif de faire émerger et de soutenir des projets solidaires et innovants portés par des jeunes. Nous attendons bien sûr vos témoignages et vos réactions. Est-ce que c'est difficile pour vous de vous engager sur le long terme? Avez-vous été découragé ou déçu? Par qui? Par quoi? Avez-vous été le témoin d'un engagement qui a changé une situation? Pour participer, vous envoyez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr. Vous laissez vos messages dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ». Et vous appelez le standard et notamment Mélissa au 04 72 38 20 23.
Jusqu'à 11h, je pense, donc j'agis sur RCF.
Comme tous les mercredis, on retrouve Madeleine Vatel. Bonjour Madeleine.
Bonjour Melchior, bonjour à tous. Vous l'avez dit, aujourd'hui il sera question d'engagement et certaines situations nous indignent, en effet d'autres nous révoltent. Mais pour autant, sommes-nous prêts à nous impliquer, à prendre du temps pour défendre une cause? Sommes-nous prêts à nous exposer pour faire avancer des situations qui nous semblent le mériter? Eh bien, pas si sûr. En tout cas, peut-être pas tout à fait comme avant, comme le faisaient les générations précédentes. Et s'engager pour une cause, sur un coup de cœur, oui, mais prendre sa carte dans un syndicat, c'est désormais non, et pour beaucoup. Alors, signer une pétition sur Internet, est-ce vraiment plus confortable que de coller des affiches la nuit? Partager un contenu militant sur Facebook, revient-il à adhérer à un parti? Pourquoi ou pour qui sommes-nous prêts à nous impliquer? Et irons-nous vraiment jusqu'au bout? Eh bien, ensemble, nous allons voir qu'il ne suffit pas d'être consternés et de nous sentir concernés pour que le monde change.
Et pour en parler dans cette première partie, Madeleine, on reçoit 4 invités jusqu'à 10h.
Oui, Juliette Delaplace, bonjour. Vous êtes chargée de mission exilée au Secours catholique à Calais. Bonjour.
Bonjour.
Grégoire Cascara, bonjour, vous avez 21 ans, vous avez cofondé à la rentrée une ONG pour lutter contre l'abstention, vous l'avez appelée À voter, et vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Génération engagée » et qui marque votre interrogation sur les nouvelles formes d'engagement chez les étudiants et chez les jeunes professionnels. Une réflexion qu'on retrouve depuis 2017 dans le mouvement que vous avez créé et que vous avez nommé « Les engagés ». Bonjour.
Bonjour.
Béatrice Engrand, vous êtes présidente de l'agence civique, bonjour.
Bonjour à tous.
Du service civique, pardon, j'oublie un mot qui est très important, l'agence du service civique. Et puis Clémence Otekpo, vous êtes la nouvelle présidente de la CIJOC, l'antenne internationale de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Et vous interviendrez depuis Rome. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Et c'est l'occasion d'ailleurs de remercier Radio Vatican qui permet cette liaison, aujourd'hui avec vous.
Et je commence avec vous, Grégoire Cascara, pour cette première question. Vous avez 21 ans, vous vous êtes penché de près sur votre propre génération. Vous diriez aujourd'hui, au sujet de l'engagement des plus jeunes, qu'il est en déclin ou qu'il vit plutôt une véritable transformation?
Option 2, transformation, mutation, évolution des formes d'engagement. Ce qu'on a essayé de décrire dans le livre et ce qu'on voit au quotidien dans les associations, c'est... L'émergence de nouvelles formes d'engagement. Les jeunes ont tendance pour beaucoup à délaisser les structures traditionnelles, les partis politiques et les syndicats notamment, et à se tourner vers des formes d'engagement qui font davantage sens pour eux. Ils le font dans la rue, ils le font sur les réseaux sociaux, ils le font dans les associations. Donc ce serait faux et caricatural de dire que notre génération est moins engagée que les précédentes, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle s'engage différemment avec de nouveaux canaux, de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, et ce sont ces nouvelles formes d'engagement qu'il faut aujourd'hui, à mon sens, encourager.
Voilà, alors pour vous, Grégoire, c'est une transformation. Clémence Otekpo, vous avez 26 ans. Je ne fais pas par ordre d'âge, hein, mais Clémence, vous êtes originaire de Nantes. La JOC, c'est un mouvement d'éducation populaire dont les jeunes eux-mêmes sont responsables. C'est un mouvement qui existe depuis 1927 en France et qui a compté jusqu'à 100 000 membres. Alors, pour vous, Clémence, l'engagement déclin ou transformation ?
Transformation définitivement. Ouais, je pense que les jeunes ont une parole à donner comme avant, et ils trouvent juste d'autres moyens de l'exprimer aujourd'hui.
Et alors, Béatrice Engrand, vous êtes vous donc au niveau du service civique depuis 2010, 500 000 jeunes ont effectué un service civique. Vous diriez-vous transformation, déclin de l'engagement chez les jeunes ?
Je dirais clairement l'option 2, transformation. C'est ce que nous observons très concrètement au sein de l'Agence du Service Civique. Et puis, c'est aussi attesté par des chercheurs comme Anne Muxel, hein, qui est spécialiste de ces questions du comportement des jeunes et notamment du comportement électoral. Et elle montre que même si les jeunes sont moins enclins à aller voter, en revanche, ils veulent faire entendre leur voix et ils ont une forme différente de militantisme.
Et donc, vous diriez que vous le percevez vous-même au sein des services civiques ? C'est une question qui traverse un petit peu aussi votre agence ?
Oui, absolument. Alors, ce que nous observons déjà, c'est que nous avons 2 à 3 candidats pour une offre de service civique. Donc, ça veut dire que le désir, l'élan est là. Et ce que nous faisons, hein, c'est vraiment de permettre une rencontre entre des organismes d'intérêt général ou des missions d'intérêt général avec des jeunes qui veulent mettre leur temps au service de cause. Très concrètement, vous l'avez dit, le service civique, ça a été créé en 2010 pour répondre déjà à l'époque, hein, à ce désir d'engagement des jeunes, et le cadre pour s'engager n'existait pas. Donc la loi de 2010 a vraiment permis de générer un cadre légal pour permettre à des jeunes de donner du temps pour des missions de solidarité, d'intérêt général, pour la cohésion nationale. Et en échange de ce temps donné, et ça c'est important parce que je crois que cette réciprocité, si on veut encourager l'engagement des jeunes, il faut aussi qu'ils en obtiennent une certaine reconnaissance. Donc en échange de ces missions de service civique, de ce temps donné dans des associations, pour des missions de service public, dans des collectivités territoriales, les jeunes reçoivent des formations, ils sont tutorés, notamment dans l'objectif de définir un projet d'avenir pour l'après-service civique, et ils reçoivent aussi une indemnité de 580 euros par mois. Et je crois que, voilà, on est tous d'accord sur l'option 2, transformation de l'engagement. La question, c'est maintenant comment on met ça en cohérence et comment on invite les pouvoirs publics, mais aussi les entreprises à savoir finalement s'adapter, hein, à ces nouveaux modes de militantisme ou d'engagement pour les prendre en compte, parce que les jeunes veulent être pris en compte. C'est pas de l'engagement pour rien. Quand ils militent sur Internet, sur des réseaux sociaux, parfois on a tendance à le dévaloriser, mais je crois que c'est une erreur. C'est leur manière de faire qui correspond parfaitement à leur génération, aux outils, aux canaux techniques qui existent aujourd'hui. Et c'est, je crois, à la société, aux parents et aux décideurs politiques, administratifs, de s'adapter pour comprendre ce que ça veut dire de s'engager sur un réseau social et ensuite de s'en emparer concrètement pour le faire vivre et adapter, par exemple, les institutions ou le mode de fonctionnement des entreprises.
Voilà, alors on y reviendra dans le détail. On est tous d'accord, vous disiez, je ne sais pas ce que pense Juliette Delaplace, bonjour. Alors vous travaillez au Secours catholique de Calais auprès des réfugiés, on sait que la situation est particulièrement tendue. Qu'est-ce que vous observez-vous dans l'engagement de vos membres en tant que nombre, en termes de nombre, mais peut-être aussi en termes de temps accordé ? Alors vous diriez, si on repose la question de l'engagement de ces nouvelles formes aujourd'hui, est-ce qu'on peut constater un déclin ou plutôt une transformation de l'engagement ?
Moi, tout d'abord, je rejoins ce qui a été dit par les interlocuteurs précédents, c'est-à-dire que pour les jeunes, effectivement, nous, dans nos équipes, on a des jeunes qui s'engagent aussi, et donc je parlerai pas du tout de déclin. Moi, j'avais envie de dire 2 choses. À Calais, c'est une situation qui est très particulière. Les motivations de l'engagement, ils sont très lisibles, très clairs, parce qu'en face, on a une situation d'injustice qui est telle que on voit au quotidien pourquoi on s'engage et dans quel objectif, pour celui de la dignité en fait, et simplement du respect des droits des personnes exilées. Donc ici, il y a au contraire une forme d'engagement qui est très forte. Beaucoup de personnes s'engagent, des gens sont engagés depuis 20 ans ici, mais chaque semaine, on accueille de nouvelles personnes. Donc au contraire, il y a vraiment un renouvellement de l'engagement face à une situation qui est vécue comme voilà, injuste, insupportable, indigne, et qui mérite changement. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de la place pour de multiples formes d'engagement. On a besoin ici, et je pense que c'est le cas de nombreuses luttes, on a besoin d'engagements très concrets, être auprès des personnes exilées au quotidien pour leur apporter au soutien, un soutien moral, matériel. On a besoin de personnes qui témoignent sur les réseaux sociaux de ce qui se passe, qui signent des pétitions. On a besoin de personnes qui viennent aux manifestations, il y a besoin de personnes qui envoient, et ben ça fait, c'est aussi une forme d'engagement, de l'argent ou des dons matériels pour nous soutenir. Et puis on a besoin aussi de gens qui sont un peu en deuxième ligne, qui vont soutenir, écouter, accompagner des personnes qui elles sont au quotidien engagées auprès des personnes exilées, qui vivent des choses et qui sont témoins de choses extrêmement douloureuse, et ça aussi c'est important. C'est important d'être en soutien aux gens qui s'engagent, parce que l'engagement c'est beau, c'est motivant, mais parfois aussi quand on est dans des endroits comme Calais, qui sont des endroits très violents, eh ben c'est difficile. Et donc être soutenant des gens qui s'engagent, c'est aussi à mon sens une forme d'engagement qui est nécessaire et important. Donc il y a de la place, moi j'ai envie de dire, il y a de nouvelles formes d'engagement, il y a un engagement qui est renouvelé, il y a un engagement qui est déterminé, mais surtout il y a de la place pour une multiplicité de formes d'engagement, là où chacune et chacun se sente à l'aise en réalité.
Alors, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. On voit bien ici à Calais pourquoi on s'engage, comme si, au fond, l'indignation sautait aux yeux, et en tout cas l'injustice sautait aux yeux. Est-ce que la question du ressort de l'engagement, elle est importante? Est-ce que savoir pourquoi on s'engage aujourd'hui, pour certains, c'est flou? Ou au contraire, vous diriez, je m'adresse donc aux trois autres participants, vous diriez que les causes sont multiples et que, bien sûr, il y a aujourd'hui encore des éléments qui donnent à s'indigner, en fin de compte, Grégoire Cascara.
Ce qui est sûr, c'est que la particularité de ces engagements, c'est qu'ils s'inscrivent dans des causes très différentes, très diverses. On est une génération qui a grandi sans grandes idéologies structurantes dominant la société, comme ça pouvait être le cas pour nos parents et leurs parents avant eux. Une génération, d'une certaine façon, désidéologisée. Et donc, c'est vrai, les repères qui structuraient la société ayant disparu, en tout cas s'étant affaiblis, on peut être une génération sans repères. Et donc, on invente au fur et à mesure des années de nouvelles utopies, de nouvelles vision, de nouvelles causes capables de mobiliser, de rassembler toute cette jeunesse. Et toute la difficulté, c'est comment ces causes peuvent se réunir, se rassembler, comment on arrive à les transformer en véritables projets de société communs et fédérateurs. Et ça, c'est encore un processus en construction.
Vous voulez dire on invente de nouvelles idéologies? Qu'est-ce que vous inventez? De nouvelles utopies, pardon, pour reprendre exactement
non,
votre
pas
terme.
De nouvelles idéologies, heureusement, mais en tout cas, voilà, de nouvelles utopies. Et surtout, comment on fait en sorte que les jeunes aient à nouveau l'espoir de changer les choses? Comment on fait en sorte qu'ils sentent que leur engagement peut avoir un impact, peut avoir un poids? Je prends l'exemple du climat. On le voit dans la rue, on le voit à la fois sur les réseaux sociaux, dans des engagements très éphémères, en ligne, mais aussi dans toutes les associations, dans toutes les structures associatives qui se développent pour porter ces thématiques, indépendamment de toute considération partisane, c'est un des sujets qui mobilise notre génération et qui prouve que notre génération a encore envie de faire entendre sa voix, de prendre sa juste place dans le débat public, place qui malheureusement est trop souvent inférieure à celle qu'elle devrait être à mon sens. Et donc il faut que les jeunes se fassent entendre encore une fois, et l'engagement associatif ou des dispositifs comme le service civique évidemment sont à mon sens un bon canal pour y parvenir.
Clémence Otekpo, à la jeunesse ouvrière chrétienne justement, je voudrais vous faire réagir là-dessus. Est-ce qu'il vous faut de nouvelles utopies? On sait très bien que le monde ouvrier ne ressemble plus aujourd'hui à celui qu'il était avant. Est-ce que aujourd'hui vous réfléchissez justement sur ce monde qui est à construire? Est-ce que vous avez envie d'y faire?
Bien sûr. Alors, c'est vrai que la jeunesse ouvrière chrétienne, c'est pas un mouvement qui est neuf. Comme vous l'avez dit, il a été créé en fait en 1925 en Belgique et puis il est arrivé en 1927 en France. Donc moi j'ai grandi dans la Jogue de France, mais à l'international c'est pareil. Le mouvement ouvrier, il est pas du tout le même d'un pays à un autre. Et dans certains pays, il n'est pas du tout ce qu'il était il y a 50 ans, même 20 ans. Mais notre projet, il n'est pas nouveau. Il se base toujours sur les mêmes grands piliers. Mais je rejoins ce qu'ont dit les autres participants sur le fait que la jeunesse a trop peu souvent une voix et que c'est délégitimisé parce que c'est une parole de jeune trop souvent. Donc oui, je pense que la jeunesse a toujours quelque chose à réinventer.
Est-ce que ça n'a pas été un peu le cas, en fait, cette place de la parole de la jeunesse difficile
mais
à
si,
faire
c'est pour ça
place.
Qu'elle doit toujours se réinventer. c'est là où c'est dur pour un jeune de trouver sa place, de trouver sa voix. Je pense il faut d'abord se sentir engagé, se sentir concerné, être à l'aise, et puis je pense avoir cette reconnaissance. Parce que sans ça, ça décourage en fait. Et vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont concernés aujourd'hui par des fois ce découragement.
Mais je voudrais creuser avec vous la question de la nouvelle utopie. Chez vous, le moteur en fin de compte de vos engagements, quand on s'appelle JOC, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, jeunesse ouvrière chrétienne ?
Alors, le monde ouvrier, il a bien évolué. Aujourd'hui, le terme ouvrier se rapproche aussi des milieux populaires. Et je pense que notre lien solide, c'est toujours et encore la chrétienté. Le fait qu'on se base aussi sur ce pilier pour nos réflexions, pour nos actions, et que c'est toujours ça qui est notre centre de gravitation, en fait.
Il est 9h19 sur RCF. Vous aussi, venez nous parler d'engagement. Que représente l'engagement pour vous ? Avez-vous été le témoin d'un engagement qui a changé une situation ? C'est difficile peut-être pour vous aussi de vous engager sur le long terme. Vous venez participer et réagir au 04 72 38 20 23. Vous envoyez vos mails à l'adresse direct@rcf.fr et vous laissez vos messages dans notre groupe Facebook « Je pense, donc j'agis ».
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Et avec nos quatre invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h, Juliette Delaplace, Grégoire Cascara, Béatrice Engrand et Clémence Otekpo pour nous parler d'engagement. Madeleine, on continue.
Oui, et je voudrais qu'on s'arrête un petit peu sur le lien aux institutions, c'est-à-dire en fait on parlait de transformation et non pas de déclin. Qu'est-ce qui reste des formes traditionnelles et puis surtout quel est ce lien aux institutions ? On a entendu beaucoup de critiques, notamment des engagements justement qui étaient pris par les institutions, des promesses qui ont été faites au moment de la COP26, pour reprendre Grégoire Cascara, vous parliez de l'engagement au niveau du climat. Les promesses sonnent creux quand des pays continuent à construire des centrales à charbon, c'est ce que Antonio Guterres, le chef de l'ONU, a dit quand il est monté à la tribune. Est-ce que dans ce lien aux institutions, la fragilité des engagements internationaux est justement peut-être parfois aussi un moteur pour les plus jeunes justement de vouloir réinventer des formes d'engagement par rapport à des institutions traditionnelles? Alors je vais poser ma question à Béatrice Engrand justement, puisque vous êtes au niveau vous du service civique. Quel est ce lien à l'institution, puisque vous représentez d'une certaine manière un engagement voilà, au niveau de la nation, on pourrait dire au sens très très large.
Absolument. Alors déjà, pour revenir à l'échange qui a eu lieu précédemment, il y a un mot que tout le monde avait dans les têtes mais n'a pas prononcé, c'est la question du sens, de la quête de sens. Et on était un peu d'accord pour dire que il y a plus d'idéologie ou d'idéaux collectifs. En revanche, il y a une recherche de sens qui est extrêmement forte chez les jeunes générations. Ils s'interrogent, hein, et ça, je crois que c'est un reflet systémique de la situation de la planète. Ils s'interrogent vers quoi ils vont et vers quoi va leur vie et qu'est-ce qu'ils vont devenir et à quoi ça sert, tout ça. Et je crois que l'engagement, en tout cas c'est ce que nous disent les jeunes, l'engagement contribue à apporter une réponse à cette quête de sens pour une raison assez pragmatique, c'est que c'est un petit peu ce que disait Juliette Delaplace précédemment. La raison pragmatique, c'est que en s'engageant, ils voient assez rapidement le résultat de ce pourquoi ils s'engagent. Quand ils vont rendre visite à une personne âgée isolée, ils voient très rapidement qu'ils font plaisir, pour cet exemple basique. Mais forcément, ça contribue à donner du sens à leur vie. Deuxième point qui a été mentionné par Clémence Otepko, c'est la question du lien à l'international et à l'Agence du service civique. On est aussi en charge de programmes européens, le programme Erasmus+ Jeunesse, le Corps européen de solidarité. Le service civique peut aussi être effectué à l'international. Et ça, c'est vraiment important, cette dimension ou cet enjeu de créer des liens par-delà les frontières entre les jeunes et de les inviter finalement à partager des causes dans différents pays du monde. Ça, je crois que ça renforce aussi le sentiment de solidarité. Pardon pour ce détour sur le lien aux institutions. Bon, l'Agence du service civique, c'est un opérateur public de l'État, donc c'est une forme d'institution, mais c'est pas comme un parti politique ou comme... Si c'était ça votre question, bon, il faut reconnaître qu'il y a une forme de méfiance, mais parfois aussi une forme de méconnaissance, peut-être quelques idées reçues. C'est pour ça que c'est important dans une politique publique comme celle du service civique, que en plus des missions extrêmement concrètes effectuées par les jeunes, qu'il y ait cet accompagnement par un tuteur qui parfois aide le jeune à traverser des moments difficiles. L'exemple a bien été donné dans le cas, par exemple, de l'accompagnement de migrants, ou quand on accompagne une personne âgée comme service civique et qu'elle décède, c'est des moments difficiles. Donc, c'est important d'être accompagné, tutoré. Et puis, on travaille aussi grâce à des formations. Enfin, les jeunes suivent des formations civiques et citoyennes, qui ne sont pas des formations descendantes dans un amphi, mais qui sont plutôt inspirées des méthodes de l'éducation populaire ou de la pédagogie active, où grâce à ces formations, finalement, ils découvrent le fonctionnement des institutions. Ils peuvent se positionner aussi par rapport à cela.
Vous avez parlé de parti politique il y a quelques instants, Béatrice Sangrand. On a justement Jean-Louis qui nous appelle de Montpellier, qui voudrait en parler. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. Je voudrais simplement apporter un témoignage et puis réagir favorablement par rapport à l'idée de tuteur qui vient d'être évoquée.
Oui.
Je suis membre d'un parti politique dont je ne dirai pas le nom, vous en doutez bien, d'un parti politique qui se veut ouvert aux jeunes et qui veut faire de la politique autrement. Dernièrement, nous avions une militante qui était engagée, qui s'est désengagée, qui n'a pas repris sa carte. Je l'ai appelée non pas pour lui demander des comptes, mais pour comprendre les raisons de son désengagement. Elle m'a dit, de toute façon, les partis politiques sont tous les mêmes, ça ne m'intéresse pas. J'ai dit, alors qu'est-ce que tu fais ? Elle m'a dit, je manifeste. J'ai dit, après, une fois que t'as manifesté, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, les partis politiques se débrouillent. Je veux dire par là que si, à un moment donné, il n'y a pas des gens qui s'engagent pour prendre le relais de ce qu'attendent nos citoyens, quelque part, notre démocratie est en danger et notre vivre ensemble est en danger. Il faut, à un moment donné, qu'il y ait des gens qui s'engagent pour prendre en charge le bien commun et le bien des autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire et je vous laisse réagir.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis d'être venu à l'antenne au 04 72 38 20 23. Grégoire Cascara, peut-être une réaction sur ce témoignage de Jean-Louis ?
Oui, je suis assez d'accord avec Jean-Louis au fond, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on observe avec ces nouvelles formes d'engagement, c'est qu'elles ont un défaut, si j'ose dire. Souvent, ce sont des engagements éphémères. Le jeune va se sentir investi d'une cause sur un sujet précis, va s'engager, encore une fois, je l'ai dit, dans des associations, dans la rue, sur un réseau social. Mais comment on réussit à convertir cet engagement éphémère en engagement pérenne sur le temps long, c'est ça qui est extrêmement compliqué. C'est pour ça qu'avec le mouvement Les Engagés, on essaie de dire aux jeunes, jeunes. Si vous avez des combats, des convictions, des causes que vous voulez porter, il y a peut-être un moment où il faut franchir le pas d'un engagement véritablement civique, voire politique, potentiellement se présenter à une élection, ou en tout cas aller voter pour s'exprimer dans les urnes qui restent, malgré tous les défauts du vote, l'outil incontournable si on veut vraiment peser. Et à l'approche des élections présidentielles, législatives, je veux vraiment dire à notre génération, si on veut être entendu par les pouvoirs publics, si on veut que la jeunesse soit au cœur des programmes des différents candidats, et si on veut ne pas subir les 5 années qui viennent, il faut qu'on aille voter, il faut qu'on se mobilise, il faut qu'on se fasse entendre, et ça, rien ne le fait mieux que la politique, ça c'est assez intemporel à mon avis.
Alors sur le lien avec la politique, je voudrais que Juliette Delaplace vous réagissiez parce que il y a eu cette grève de la faim qui a conduit justement à un mouvement de la part du gouvernement. Est-ce que aujourd'hui, d'après vous, justement, cet engagement d'abord associatif ne se passe pas du politique en fin de compte?
Alors moi je voulais nuancer un peu ce qui avait été dit précédemment. D'une certaine manière, moi je pense qu'il y a une grande porosité en fait entre l'engagement associatif notamment et l'engagement politique. En réalité, quand les associations font du plaidoyer, quand les associations interpellent, elles interpellent bien le politique. Par exemple, récemment, il y a eu une commission d'enquête parlementaire sur les droits des personnes migrantes à l'Assemblée et qui a donné lieu à un rapport. Cette enquête, elle a été demandée par les associations. Les associations vont utiliser leurs résultats. Donc en fait, il y a une fluidité finalement entre entre la mobilisation associative et l'espace politique. Pour répondre à votre question, est-ce que l'engagement se passe du politique, c'est ça, si je la comprends bien, c'est ça?
Est-ce qu'on finit pas toujours par le politique en fin de compte? Parce que changer le monde, ça passe aussi aujourd'hui, ce que disait un petit peu Grégoire, c'est-à-dire qu'à la fin, il y a le député qui va voter une loi. Est-ce qu'on peut s'extraire de ça ou pas du tout?
Moi, je voudrais répondre sur deux niveaux. Le premier, c'est que à Calais, alors le politique est aussi un frein et aussi une entrave en fait à l'engagement et à la solidarité. Il faut dire qu'on vit dans une ville où depuis septembre 2020, il y a eu 16 arrêtés qui interdisent aux associations de distribuer à boire et à manger. Donc ici, les outils du politique, les outils de l'État en fait, sont des entraves à l'engagement. Je parle des arrêtés anti-distribution, mais c'est un élément parmi d'autres de l'entrave. Il y a aussi le fait que, par exemple, on pose des rochers, on interdit le stationnement, on crée des douves, on crée des petites collines pour empêcher les véhicules associatifs d'accéder aux personnes dans le besoin. Donc, on est aussi ici, clairement, et je pense que c'était aussi l'objet de la grève de la faim, on est aussi en opposition, clairement, à ce que, en tout cas, le politique aujourd'hui exerce vis-à-vis de la solidarité. Et sur ce thème-là, il faut dire qu'à Calais, c'est difficile de s'engager. C'est difficile de s'engager parce que on est entravé au quotidien dans l'action, mais aussi il y a pas loin de la diffamation à l'endroit des associations. On accuse les associations de travailler avec les passeurs. On accuse les associations de maintenir les personnes dans des situations de précarité. On accuse les associations de se faire de l'argent, de bénéficier d'une situation qui est une situation indigne. Et donc s'engager dans ce contexte-là, dans ce contexte de renversement en réalité des valeurs, c'est pas facile.
S'engager, c'est aller à la confrontation, on entend dans ce que vous dites, en tout cas dans ce cas précis, à Calais.
Oui, c'est sûr, s'engager, c'est aller à la confrontation. Après, ce qui est mené actuellement n'englobe pas l'ensemble des... l'ensemble des voies, des alternatives politiques possibles. Et c'est là où... De fait, il y a un souci de certains partis, mais c'est vrai que moi je trouve que l'engagement, il y a une sorte de perte de confiance, de défiance vis-à-vis des partis malgré tout, que l'on a peu vu en fait, que l'on voit peu au quotidien pour soutenir des situations très concrètes, que l'on voit peu se mobiliser sur des situations d'injustice importantes. Et c'est vrai que l'espace est laissé à d'autres formes d'engagement, des associations. Pour des formes collectives, mais aussi des espaces d'indignation individuelle. On a aussi des gens qui ne sont pas engagés dans des associations, qui s'engagent à titre individuel, parfois sur le temps.
On reviendra alors sur le caractère collectif de l'engagement. Béatrice Engrand, vous souhaitiez réagir sur cette question justement?
D'abord réagir sur la question du vote, parce qu'effectivement, et c'est d'ailleurs l'objet des formations civiques et citoyennes dont je parlais tout à l'heure, moi je reste convaincue que voter et ne pas voter, c'est pas du tout la même chose que voter, que si on ne vote pas, on prend évidemment le risque de voir arriver un ou une candidate qu'on n'a pas choisi. C'est aussi pas pareil de voter, là je cite aucun nom, hein, mais pour quelqu'un qui serait fondamentalement raciste, que pour quelqu'un qui est plus, voilà, qui est plus modéré, ouvert sur le monde. Donc je crois qu'on a vraiment quand même ce travail de pédagogie à faire en direction de la jeunesse. Quand je dis pédagogie, c'est pas condescendant, hein. C'est plutôt de les accompagner vers une prise de conscience. Mais pour ça, on a aussi besoin des politiques et des partis pour qu'ils entendent aussi les doutes de la jeunesse, les doutes de s'engager. Et c'est quand même aussi leur intérêt de se réorganiser, de se remettre en question, parce qu'un jour ils n'auront plus de militants et c'est la mort annoncée progressivement, hein. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer d'aider les jeunes à trouver un mode opératoire qui leur convient, mais dans lequel ils puissent mettre le pied dans la porte quand même dans la politique pour changer les choses de l'intérieur. Ça me paraît vraiment tout à fait important. Voilà ce que je voulais dire, ce sur quoi je voulais réagir.
Eh bien, écoutez, on va marquer une petite pause tout de suite sur RCF. Vous faites comme Jean-Louis, vous nous appelez au 04 72 38 20 23 pour apporter vos réactions, vos témoignages sur ce que vous pensez de l'engagement aujourd'hui en France, de votre engagement, venez témoigner. Vous pouvez également nous laisser vos messages dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis et par mail à l'adresse direct@rcf.fr. À tout de suite.
Vous écoutez RCF à Belley sur le 92.8.
Vous avez entre 16 et 30 ans, vous êtes porteur d'un projet dans le domaine d'action sociale, éducation, santé, culture ou environnement. Participez au trophée de l'engagement des jeunes Saint-Christophe RCF et remportez jusqu'à 4000 euros et une visibilité sur notre antenne. Pour plus d'informations, rendez-vous sur trophée-engagement.fr ou sur rcf.fr.
Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous, dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur œuvre-orient.fr ou par chèque à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75 006 Paris.
Et en attendant vos appels au 04 72 38 20 23, on écoute Diana Ross. In love I still believe, it's all I ever need, the reason that I breathe, I just can't get enough, an old familiar friend. Heaven said it never has to end. I still believe in love, love pulling me up whenever I'm down. Kiss me close, it's in everything I- Voilà, consommer sans modération, Diana Ross sur RCF à Still Believe.
Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand, Madeleine Vatel.
Et avec nos quatre invités qui nous accompagnent jusqu'à 10h pour nous parler d'engagement, Juliette de Laplace, vous êtes chargée de mission exilée au Secours catholique de Calais. Grégoire Cascara, vous avez cofondé à la rentrée une ONG pour lutter contre l'abstention que vous avez appelée à voter. Vous êtes l'auteur également d'un essai intitulé « Génération engagée » et vous avez créé le mouvement « Les engagés ». Béatrice Engrand, vous êtes la présidente de l'Agence du service civique et Clémence Otekpo, vous êtes la nouvelle présidente de la JOC, c'est la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. Madeleine, on peut continuer cette émission sur l'engagement.
Oui, on a parlé de l'injustice. Qu'est-ce qui déclenche l'engagement? Clémence Otekpo, c'est pas forcément explicite, mais est-ce que la foi, par exemple, met en route? Est-ce que vous avez des exemples? Et puis, dans votre expérience à chacun, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, ça devient irrésistible d'y aller? Qu'est-ce que vous constatez chez les jeunes qui viennent dans vos mouvements? Clémence Otekpo.
Alors, c'est une très bonne question. Je pense que la manière dont les jeunes arrivent en JOC, ça peut être très différent. Il y en a qui découvrent que des copains sont en mouvement et juste ils veulent pas être en dehors, donc ils s'invitent eux-mêmes. Il y en a qui sont invités par leurs copains et c'est la grande majorité des cas des jeunes qui sont déjà dans le mouvement et qui ont rejoint peut-être après ce qu'on appelle l'action catholique des enfants souvent. Donc un mouvement pour les enfants, pour jouer, pour découvrir l'évangile. Et du coup, c'est la continuité, l'envie de grandir un peu, toujours dans cette ambiance, mais en étant plus grand, en étant plus engagé. Et sinon, pour poursuivre sur sur la manière dont on s'engage aussi, je pense que le plus dur, c'est vraiment de faire le premier pas et d'être bien accompagné. On a parlé de ceux qui accompagnent les jeunes et je pense que c'est un rôle super important. La JOC, c'est un mouvement de jeunes, donc de 13, qui peut aller de 13 à 30, 40 ans et le fait est que ce sont les jeunes qui font vivre leur mouvement, mais qui sont accompagnés par des encadrants, des adultes qui connaissent le mouvement. Et
c'est
grâce à ces adultes qui continuent de s'engager après. Oui, c'est ça. Moi, j'ai rejoint après l'Action catholique des enfants. Alors, j'ai rejoint pour retrouver mes copains. Concrètement, c'était pas pour changer le monde à l'époque. Et c'est bien après qu'on m'a proposé de rejoindre une commission de communication pour un rassemblement national en France. Alors moi, la communication, ça me bottait bien, j'ai dit ok. Et puis on m'a écoutée, je me suis retrouvée dans des réunions où quand je donnais mon avis, on me disait c'est super cool. Et je crois que c'est ça qui m'a poussée à continuer, c'est que quand on est jeune et qu'on veut s'engager, on est plein d'idéaux. Des fois, on est confronté à des réalités qui peuvent être violentes, qui peuvent être totalement dépassantes pour un jeune esprit. Et le fait d'être accompagné, d'être soutenu, je pense que c'est ça qui maintient définitivement.
Alors, qu'est-ce qui déclenche l'engagement, Béatrice Engrand? Qu'est-ce qui met en route? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça devient irrésistible? Alors, j'ai l'air de mouiller la chemise. C'est-à-dire, vraiment, là, je parle de ceux qui y vont, qui passent du temps, qui ne comptent plus leurs heures, qui, même jeunes, s'attachent à ce que d'autres vivent des expériences et vivent mieux, et en tout cas, soit moins le fruit d'injustice. En tout cas, comment est-ce que vous diriez que ces jeunes s'engagent? D'où vient cet engagement? Quel est le déclencheur?
Il y a différentes raisons, en fait. Hein. C'est d'abord un attachement à une cause, à un domaine. La première cause, évidemment, aujourd'hui, chez les jeunes, en tout cas, on observe ça à l'Agence du service civique, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est évident. Ça peut être aussi des situations qui révoltent les jeunes. Puis je voudrais un petit peu nuancer pour qu'on reste pragmatique. Il y a pas de mauvaise raison pour s'engager. On peut aussi s'engager parce qu'on sait pas quoi faire d'autre. On peut aussi s'engager en service civique, pour prendre cet exemple que je connais bien, parce qu'il y a une indemnité. Ce qui compte, c'est ensuite le déclic, ce qui va se passer en fait pendant ce temps-là, d'où l'intérêt d'être bien accompagné, d'avoir un tuteur, d'avoir des formations de qualité. Et moi, je crois beaucoup à ça, à la transformation, à l'évolution finalement du jeune, puisque c'est les publics dont je m'occupe à l'Agence du service civique, hein, au fur et à mesure de l'engagement. L'engagement, quel que soit le point de départ, c'est... Ça génère forcément, si ça se passe bien, ça génère une révélation. Pour le service civique, ça va générer un désir de poursuivre l'engagement. 44% des jeunes quand même qui font leur service civique continuent comme bénévoles. Certains d'ailleurs parviennent à prendre des responsabilités dans les instances associatives, contribuent comme ça à les faire évoluer. Et c'est évidemment un point tout à fait essentiel. Donc voilà, il faut être idéaliste. Et en même temps réaliste, et je crois accepter tous les élans, tous les désirs, et utiliser l'engagement pour en direction d'une transformation. Hein. Ce qui est un point important quand même sur l'engagement, mais vous l'avez sous-entendu, c'est la question du temps. Parce que qu'est-ce que c'est un engagement? Bon, il y a plein de définitions. Pour moi, c'est quand même beaucoup l'énergie et le temps donné. Et le temps est compté. C'est une banalité de le dire. Donc, comment la société aussi s'organise pour laisser du temps à ceux qui s'engagent? Le service civique, c'est plus facile puisque comme on est indemnisé, même si on peut considérer parfois que c'est insuffisant, voilà, il n'y a pas quand même tout à fait de freins financiers. Il y a parfois des freins sociaux ou manque d'information, mais voilà, c'est comment la société s'organise pour permettre à ceux et celles qui veulent s'engager de trouver le temps de le faire, hein.
Juliette Delaplace, qu'est-ce qui met en route? Est-ce que vous diriez que la foi, même si elle n'est pas exprimée en tant que telle, met en route? Est-ce que ce sont d'autres causes qui viennent rejoindre cette indignation?
Oui, moi je pense qu'il y a plusieurs moteurs à l'engagement. Il y a effectivement la foi, les valeurs chrétiennes. Il y a le fait de se sentir soutenu par par l'Église de manière générale. Par exemple, le pape encore dimanche dans son Angélus a parlé de la situation des personnes exilées aux frontières et notamment à Calais, et a soutenu le travail de Caritas. Et ça, en fait, c'est encourageant pour s'engager. Je pense qu'il y a le sentiment d'une injustice, mais aussi la conviction que l'on peut vivre la fraternité, la conviction que l'on peut changer les choses. Je pense que ça, ce sont des moteurs. Et puis je pense qu'ensuite, il y a effectivement des déclencheurs. Le fait d'avoir un ami, un membre de famille qui est déjà engagé dans une structure, et donc ça donne du crédit, ça donne un crédit de confiance à l'association ou au mouvement. Le fait aussi rapidement, quand le pas est franchi, de se sentir bienvenu, accueilli, de sentir aussi que on n'est pas obligé seulement de rentrer dans un moule, mais que l'on peut faire des propositions, que l'on peut venir avec ce que l'on est, ce que l'on a comme qualité, et puis ce que l'on a aussi comme, je dirais peut-être pas de faiblesse, mais ce que l'on n'a pas envie de faire aussi, savoir ce que l'on n'a pas envie de faire, se sentir accueilli, ça c'est important. Et moi je tiens à dire que vraiment dans les associations, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Il y a un besoin de soutien, il y a un besoin de renfort. Et puis moi je voudrais aussi parler de quelque chose. On parlait d'accompagnement. Ça c'est très important, avoir des espaces, enfin en tout cas nous c'est quelque chose que l'on considère beaucoup, avoir des espaces de parole, avoir des moments de soutien. Nous on est même soutenus par des psychologues, parce que ce qui est vécu ici c'est vraiment difficile, et on y met des moyens. Mais aussi pouvoir se former de manière continue, c'est des choses importantes, pouvoir évoluer aussi dans son engagement, et ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est des choses qui nous mobilisent dans un contexte d'urgence. Et donc je le dis parce que c'est un vrai effort de se rappeler que pour garder les bénévoles, il y a des bénévoles qui sont engagés ici depuis 20 ans, et vraiment je leur tire mon chapeau, parce que c'est vraiment un désengagement fort. Pour s'engager dans la durée, ça demande de l'énergie de la part des associations, de la part des structures, de la part des mouvements, et trouver cette énergie-là dans un contexte où la précarité elle augmente, et là je parle pas que de Calais, la précarité, les situations d'injustice elles sont nombreuses, il y a des vraies urgences sociales, et c'est pas facile.
Prenons le temps de vous écouter au 04 72 38 20 23. Maurice est avec nous de Sainte. Bonjour Maurice.
Oui, je vous remercie pour votre émission. Je prends un cours. D'abord, c'est un honneur pour moi de parler à toutes ces personnes qui sont ici et je les remercie de tout ce qu'ils font. Mais c'est pas suffisant de dire merci parce que c'est pour moi le dernier rempart et le dernier honneur de notre pays en face de tous ces politiques immondes. Le mot est trop faible. Qui, comment dirais-je, font des lois iniques dans leur intérêt pour pouvoir à la fois condamner des actes de bravoure, des actes, d'ailleurs, on se rappelle de la dame qui a sauvé la capitaine qui a été condamnée en Italie. D'ailleurs, le type qui est un corrompu nationaliste est condamné à l'heure actuelle, même alors qu'il était au pouvoir à l'époque et qui a fait arrêter à raisonner ce bateau qui sauvait tellement de vies. Donc je pense que ces gens-là seront condamnés, donc qui gardent grand espoir, toutes ces personnes qui sont à Calais, là-bas, qui font beaucoup de choses, parce que de toute façon, ils seront condamnés. Parce qu'ils vont à l'encontre des lois humaines et à l'encontre des lois internationales. Donc de toute façon, ils ne respectent pas les lois humaines qui sont les lois de la primauté au travers de ce que nous devons défendre.
Où est-ce que vous voulez en venir, Maurice, sur l'engagement ?
Simplement dire que l'engagement est une nécessité vitale, parce qu'elle permet de mettre en avant les valeurs que nous voulons défendre et donner à nos enfants. Ce n'est pas la peine d'éduquer nos enfants si nous ne leur donnons pas des valeurs et si nous ne sommes pas dans l'action. Les paroles, c'est du vent. Il faut des actes. Et ces actes, elles sont faites par ces associations qui sont le dernier rempart, à mon avis, de la démocratie. Si les gens n'avaient pas fait ça à l'heure actuelle, dans les temps obscurs que nous avons connus dans le temps, nous ne serions pas en démocratie, nous ne serions plus. Nous ne serions plus en démocratie. J'ai une honte absolument affreuse contre nos politiques et leur hypocrisie qui me dégoûte et qui ont fait que beaucoup de gens meurent. C'est affreux.
Et j'ai honte
de mon pays et je vous dis merci à toutes ces associations et de continuer. Nous sommes derrière vous parce que quelque part, les votes et nos idées, on ne les entend pas parce que nous sommes des gens que nous n'entendrons pas. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là.
Merci Maurice. En tout cas, vous avez la parole sur RCF chaque matin au 04 72 38 20 23. Merci beaucoup pour ce témoignage. Grégoire Cascara, pourquoi on a besoin des jeunes pour s'engager, comme on l'entend aussi à travers ce témoignage de Maurice qui nous dit vraiment, voilà, si on n'a plus ces jeunes, on ne pourra plus défendre les personnes les plus vulnérables. Grégoire Cascara.
Oui, surtout l'importance Madeleine. Aussi de rester fidèle à ses convictions. Ce qu'on a entendu dans ce témoignage, c'est aussi la nécessité à tout moment de savoir quelles sont nos convictions et comment on les défend. Grégoire Cascara, voilà, effectivement, sur en quoi la fidélité à ses propres convictions est ce moteur de l'engagement.
Maurice a parlé de l'engagement comme une nécessité vitale. Ce qui est sûr, c'est que tous les jeunes qui franchissent le pas de l'engagement, et c'est parfois difficile, il y a parfois des disparités au sein des jeunesses qui peuvent coexister en France, mais tout jeune qui s'engage, je connais pas de contre-exemple, reste engagé parce qu'au fond, il découvre avec l'engagement à quel point il peut avoir un impact, à quel point il peut porter ses convictions, même si des barrières existent, des barrières financières, la barrière du temps, on en a parlé. C'est pour ça que moi je suis étudiant. Pourquoi toutes les universités ne mettent pas en place des crédits ECTS pour valoriser l'engagement. Ça, c'est
alors,
quelque chose de
ECTS,
simple à mettre en place.
Alors, les crédits ECTS, il faut rappeler ce que c'est.
Les crédits ECTS, c'est des crédits qui vous permettent de valider des points pour ensuite accéder à l'année supérieure. Vous passez de la L1 à la L2 grâce à des crédits.
Et donc, système européen, avoir quelques... ECTS. Hein. C'est européen.
Tout à fait. Oui.
Et certaines universités le pratiquent, par exemple, dans la reconnaissance du service civique, et certaines encore non, et effectivement, il faudrait que ce soit systématisé.
Exactement, et c'est vrai que ça fait partie de ces barrières qu'il faut réussir à lever progressivement. Puis il faut aussi, je pense, inventer des nouvelles formes de mobilisation si on veut aller chercher des jeunes qui, encore une fois, ne votent pas ou ne s'intéressent pas forcément à la chose publique. Et parmi ces initiatives, il y a des initiatives technologiques. Les engagés vont lancer dans les tout prochains jours une application pour mobile, la première application dédiée à l'élection présidentielle, avec à la fois un comparateur des programmes des candidats pour permettre aux jeunes de découvrir leurs propositions, leurs projets, avec aussi des outils de vulgarisation, de pédagogie pour comprendre tous les enjeux autour de l'élection. Et on va, je l'espère, convaincre un maximum de jeunes de s'engager dans cette élection et d'aller voter en avril prochain pour choisir en conscience leur candidate ou leur candidat. Avec À Voter, on va aussi lancer un chatbot sur WhatsApp pour vulgariser les enjeux liés à l'inscription sur les listes électorales. Ça fait partie des solutions qu'il faut mettre en place parce qu'encore une fois, il y a des jeunesses, notamment métropolitaines, on ne le dit pas assez, qui ont accès à l'information et puis il y a des jeunesses qui parfois n'ont pas le même accès de la même manière que sur ces crédits ECTS. Par exemple, les grandes écoles le mettent en place quasiment systématiquement alors que dans des universités de région, c'est beaucoup moins le cas. Donc ça aussi, c'est important de le dire, et que ces disparités cessent, c'est le rôle des pouvoirs publics, et cette valorisation des crédits ECTS est une première mesure qui pourrait être mise en place.
Grégoire Cascara, on entend aussi votre exigence dans votre propos, c'est-à-dire que est-ce que parfois l'engagement n'est pas un peu tiré au rabais? Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre le civisme, quand on entend des gens qui disent « j'ai le pass sanitaire, je suis engagé », c'est parfois un peu, c'est parfois un petit peu au rabais, non? Est-ce que vous diriez qu'à un moment donné, vous attendez aussi des jeunes qu'ils aillent plus loin que suivre des hommes politiques sur Instagram ou mettre un pouce bleu sur une page Facebook?
Alors je crois qu'il ne faut pas mettre la responsabilité sur les jeunes, hein. Encore une fois, c'est le rôle à la fois des pouvoirs publics, de nous, dirigeants associatifs, mais aussi des entreprises, eh bien, de donner les clés à ces jeunes pour accomplir cette quête de sens dont Béatrice parlait tout à l'heure et qui est tout à fait fondamentale. On le voit partout, les jeunes cherchent du sens. Ils cherchent du sens dans leur métier, ils cherchent du sens dans leur vie personnelle, dans leur vie professionnelle. Et donc, le problème, c'est qu'encore une fois, beaucoup n'ont pas les moyens financiers, n'ont pas le temps, n'ont pas accès à ce qu'ils pensent être des réseaux inatteignables ou qui ne se sentent pas légitime aussi pour s'engager. Et donc, il faut casser ce plafond de verre. Tous les jeunes peuvent se faire entendre. Tous les jeunes sont légitimes pour s'engager. Tous les jeunes ont un rôle à jouer. Et c'est ça qu'on doit marteler toujours. Et c'est comme ça qu'on produira et qu'on arrivera collectivement à construire une véritable société de l'engagement.
Béatrice Engrand.
Oui, Maurice a prononcé un mot, un beau mot tout à l'heure. Il a dit merci. Et je crois que c'est aussi important dans les leviers de l'engagement. La question de la reconnaissance, ça ne veut pas dire que l'engagement est intéressé, je ne le fais pas forcément pour avoir quelque chose en échange, mais la question de la reconnaissance, qu'elle soit voilà, par des crédits ECTS, qu'elle soit par une indemnité, qu'elle soit par la place qu'ensuite on va me faire dans telle ou telle association, c'est vraiment très important pour fidéliser, je crois, les jeunes dans leur engagement. Et un point qui est sous-entendu dans nos propos, c'est le sujet de la transcendance. Hannah Arendt disait « l'être humain ne vit pas seulement que de la satisfaction de ses besoins matériels ». Ça, c'est certain, mais tout le monde n'en est pas conscient. Et quand même, la société, et surtout les politiques publiques, doivent donner des opportunités aux jeunes de s'engager et effectivement d'exploser le plafond de verre qui est fait voilà, de barrières dans les têtes ou de mauvaises représentations, mais aussi de manque d'informations. La question de la reconnaissance, c'est important.
Allez,
d'ouvrir le champ des possibles, créer toujours plus d'opportunités.
On va accueillir Jean-Louis qui habite à Bourg-en-Bresse, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour Melchior.
Bonjour. Allez, on vous écoute.
Bonjour à tous. Bravo pour votre émission. En écoutant la personne de la jeunesse ouvrière chrétienne, on a eu envie de vous témoigner, mon épouse et moi-même. Donc quand nous avions 17 ans, on en a 68 aujourd'hui, on a vraiment appris au sein de la jeunesse ouvrière chrétienne, donc de la JOC, à ce que c'était que s'engager dans la vie. Et ça nous est resté. Et à plus de 68 ans, nous sommes toujours engagés. Merci à la jeunesse ouvrière chrétienne.
Écoutez, merci beaucoup pour cet appel ce matin dans Je pense. Donc j'agis, Clémenceau Tecpo, c'était pour vous ça, ce témoignage et ce merci.
Ouais. Eh ben ça fait du bien. À 68 ans, moi j'ai envie de leur dire merci à eux d'être restés engagés. Et puis c'est vrai que c'est grâce à des personnes comme ça qui ont découvert ce que c'était d'être engagé, à quel point c'était beau, à quel point ça a aidé soi-même à se découvrir en fait. Quand on s'engage, on se confronte soi-même à la réalité et à tout ce qui peut indigner. Et on se découvre toujours plus, chaque jour un peu plus. Et c'est grâce à des gens comme ça qui restent engagés derrière et qui accompagnent après eux-mêmes des jeunes que ça continue de fonctionner. Donc merci infiniment.
Des personnes qui appliquent également votre méthode de réflexion. Je crois que vous avez un slogan à la JOC, on le répète, hein, voir, juger, agir. Ce sont trois mots importants.
Exactement. Très important. On part du principe que les jeunes qui se réunissent, ils peuvent s'engager à partir de leur vie. Donc le but, c'est de les réunir localement avec des jeunes de leur âge qui puissent discuter des situations qui constatent au quotidien. Puis ensuite, réfléchir ensemble sur d'où ça vient, pourquoi, se pencher éventuellement sur un texte d'évangile pour essayer d'éclairer leur débat et ensuite surtout se mettre en action, savoir comment individuellement on peut agir, mais collectivement quel pas on peut faire ensemble, mettre ses forces ensemble pour changer les choses. Et ça, je pense que c'est la clé de tout engagement.
Voilà, s'engager à partir de sa vie, je retiendrai ça. On parlait des courses pour les aînés, des maraudes pour les plus fragiles, conduire des sans-abri dans des centres d'hébergement, aider les réfugiés là où on est. Voilà, merci beaucoup de votre participation à cette émission consacrée à l'engagement. Merci Juliette Delaplace, vous êtes chargée mission exilée au Secours catholique de Calais. Merci Grégoire Cascara, vous avez engagé votre réflexion dans le mouvement Les Engagés et puis vous incitez les jeunes à voter avec cette ONG à voter. Béatrice Engran, vous êtes présidente de l'agence du service civique, et puis Clémence Otepko qu'on entendait à l'instant, présidente de la CIJOC, l'antenne internationale de la jeunesse ouvrière chrétienne. Merci beaucoup à tous les quatre de nous avoir redit voilà, votre engagement et qu'il faut y aller. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Merci Madeleine Vatel. Merci également à l'équipe de Radio Vatican qui vous accueillait ce matin. Clémence Otekpo. On va continuer de parler d'engagement dans un instant, toujours en direct dans Je pense donc que j'agis, à l'occasion du lancement des trophées de l'engagement des jeunes. C'est un partenariat entre le Fonds Saint-Christophe et RCF avec le soutien de la mutuelle Saint-Christophe Assurance pour récompenser les jeunes qui s'engagent. On en parle dans un instant. À tout de suite.